Livre troisième de Saint François d'Assise. Le chanteur de Dieu. Chapitre 1. La prédication aux oiseaux. Il semble bien que François, après avoir vu la vie calme et heureuse et tout intérieure de Claire et de ses premières compagnes à Saint-Damien, ait une fois de plus souffert de doutes sur sa vocation. De nouveau, l'idée lui est venue de se demander s'il ne ferait pas mieux, en fin de compte, de se retirer entièrement du monde et, comme les anciens anachorètes, de n'avoir de soucis que pour le salut de son âme. Aussi bien plusieurs de ses disciples avaient-ils choisi cette voie, Sylvestre, Ruffin et un peu Égide. Et bien que François n'eût pas les yeux fermés aux dangers de la vie solitaire, l'égoïsme spirituel et l'orgueil ascétique, ainsi que nous le prouve un passage bien caractéristique des Fioretti, chapitre 29, d'autre part, il ne pouvait s'empêcher de constater que la vie errante du prédicateur exposait trop à ce qu'il appelait l'empoussièrement des pieds spirituels. Que si nous voulons comprendre au juste ce que François entendait par ces mots, il faut que nous suivions le saint dans les grands voyages de mission qu'il a entrepris durant les années 1211 et 1212. S'étant mis en route avec Sylvestre vers la Toscane, il réussit en chemin, comme nous l'avons raconté déjà, à rétablir la paix dans la ville de Pérouse. À Cortone, il convertit et emmena avec lui Guido Vagnotelli et aussi, du moins si nous devons en croire Ouadine, cette Élie Bombaronne qui allait devenir ensuite l'un des hommes les plus fameux et les plus redoutés de l'ordre. Puis, après avoir fondé aux environs de la ville l'ermitage de Selles, François poursuivit son chemin vers Arezzo et Florence. Dans cette dernière ville, il vit se joindre à lui un éminent juriste, Jean Parenti, docteur de l'université de Bologne, et qui à cette date exerçait les fonctions de juge à Civita Castellana. Ouadine nous rapporte, d'après Rudulf, une anecdote curieuse sur le motif qui a décidé Parenti à entrer dans l'ordre nouveau. Au cours d'une promenade, le juriste a entendu un porcher qui, tout en s'évertuant à faire rentrer dans l'étable ces bêtes grognantes, leur disait « Allons, mes porcs, rentrez dans votre tanière comme les juges entrent en enfer !» Le cri de cet homme répondait finalement à l'opinion populaire du temps, d'où datait encore le dicton bien connu « Homme de loi et mauvais chrétien ». Le fait est que Parenti, dès l'arrivée de François à Florence, renonça à toutes ses fonctions pour devenir franciscain. Et c'est vers le même temps qu'un autre savant légiste de Bologne, Nicolas de Pepoli, prit sur soi de servir les intérêts de la mission franciscaine à Bologne. De Florence, François se rendit à Pise, où il se joignit à lui un autre futur général de l'ordre, Albert, et cet Agnellus, qui plus tard devait conduire la première mission franciscaine en Angleterre. Et puis, en passant par San Gimignano dans le Val d'Essa, par Chiusi et par Setona, le saint revint à Assise après une absence de plus d'une année pour y prononcer dans la cathédrale les mémorables prédications de Carême dont j'ai déjà parlé plus haut. Cette dernière partie du voyage de François a presque pris la forme d'une marche triomphale. Quand le saint approchait d'une ville, toutes les cloches sonnaient. Le peuple venait en foule au-devant de lui, avec des palmes dans les mains, et le conduisait en procession solennelle jusqu'à la maison du curé de l'église paroissiale, chez qui François avait l'habitude de loger. Là, on lui apportait des pains pour qu'il les bénît. Et ces pains étaient conservés ensuite comme des reliques. Et souvent, l'on entendait sortir des foules ce cri, d'ailleurs toujours familier au peuple italien, « Ecco il santo, voici le saint. » Les disciples eux-mêmes trouvaient ces honneurs un peu excessifs. Maintes fois, ils demandaient à leur maître, comme jadis les apôtres l'avaient demandé aux leurs, « N'entends-tu point ce qu'ils disent ces hommes ?» Mais François avait coutume de leur répondre qu'il recevait ces hommages de la même façon dont on admettait les hommages rendus aux tableaux et statues dans les églises, lesquelles représentations n'étaient pour les chrétiens que des images de Dieu. Et il disait que sa chair et son sang, sa personne individuelle, n'avaient pas plus de part dans ces honneurs dont on le comblait que le bois ou la pierre des images sudites. Mais François à la longue finit par juger cette réponse insuffisante et par se sentir de plus en plus mal à l'aise devant ces exclamations de la foule, de telle sorte qu'il tâcha du moins à s'abaisser lui-même le plus qu'il pouvait. « Ne me louez pas trop tôt, disait-il au peuple, car je suis encore en état d'enfanter des fils ou des filles. » Ou bien il s'écriait « Si Dieu avait daigné témoigner à un voleur des rues les grâces dont il m'a comblé, nous aurions encore à lui en être bien plus reconnaissants. » C'est de tout son cœur qu'il remercia l'évêque de Terni lorsque celui-ci, un jour, en manière de préface à la prédication du saint, fit au peuple une petite allocution où il dit combien c'était chose étrange qu'un homme aussi insignifiant et peu instruit que François pu obtenir d'aussi grands succès. Et à ceux qui louaient sa manière rigoureuse de vivre, il disait « Tout ce que je fais, un pécheur peut le faire aussi. Un pécheur peut jeûner, peut prier, peut verser des larmes, peut mortifier sa chair. Il n'y a qu'une chose qu'un pécheur ne puisse faire, c'est de demeurer fidèle au Seigneur son Dieu. » Car François se reprochait à soi-même maintes infidélités contre Dieu, et n'avait garde de s'en cacher aux autres. C'est ainsi que, étant tombé malade, il avait consenti à manger de la viande de poule durant sa maladie. Mais à peine se trouva-t-il rétabli qu'on entendit par son ordre le frère qui le tirait nu, une corde au cou, crier à la foule. « Vous pouvez voir ici le grand glouton, un misérable qui a mangé de la viande de poule à votre insu. » Et comme le peuple ne s'en montrait que plus enthousiaste à le louer de son humilité, il ordonna à un autre de ses frères de l'insulter continuellement pour que d'un côté, du moins, il entendît la vérité sur son compte. Sur quoi voici le frère qui, bien à contre-cœur, se met à l'appeler un ruste grossier, un vaurien, un serviteur inutile. Et François, après l'avoir écouté avec un sourire ravi, lui répond « Que Dieu te bénisse, mon cher frère, pour ces paroles-là. Oui, voilà bien ce qu'il convient de faire entendre au fils de Pierre de Bernadone. » D'autres fois, François essayait d'échapper aux hommages du peuple en se retirant dans la solitude. C'est ainsi qu'on nous raconte qu'il a passé tout le carême 1219 dans une île inhabitée du lac Trasimène. Il paraît bien aussi s'être enfermé durant une grande partie de l'hiver suivant dans l'ermitage montueux de Sarteano auprès de Chiusi. Les huttes de branchage dans lesquelles il demeurait là avec un petit nombre de ses frères ressemblaient fort à des tanières de bêtes sauvages, mais la vue plaisait infiniment à François, en partie pour sa sauvagerie, en partie pour sa solitude, et en partie enfin parce que de là, il pouvait apercevoir assise dans le lointain. Ce fut précisément dans cette retraite de Sarteano que François se vit hanté de cruelles tentations qui faillirent le pousser jusqu'au désespoir. Une voix intérieure lui disait « Il y a du salut à trouver pour tous en ce monde, François, pour tous, à l'exception d'un tourmenteur de soi-même tel que toi. » Ces tentations l'incitaient notamment à renoncer au célibat pour se marier. Et lui, pour résister à de tels désirs, tout d'abord, il eut recours aux vieux moyens employés par les anachorètes. Chaque jour, avec la corde qui lui servait de ceinture, il s'infligeait une sorte de série de coups sur les reins dénudés. Mais comme le frère âne, c'est-à-dire le moi corporel qu'il portait en soi, ne consentait toujours pas à se tenir tranquille, il imagina contre lui une autre défense. À demi-nu tel qu'il était, Il s'élança dans la neige qui couvrait le sol, très haut devant sa cellule. Et le voici occupé à construire 7 bonhommes de neige. Puis, ayant achevé ce travail, il se dit à soi-même, « Regarde, François, voici d'abord ta femme, cette grosse là-bas. Les 4 que tu vois à côté d'elle, ce sont tes 2 fils et tes 2 filles. Et les 2 derniers sont ton valet et ta servante. Regarde, ils vont tous mourir de froid. Dépêche-toi de trouver quelque chose pour les vêtir. Ou bien, mon pauvre François, si tu ne le peux point, réjouis-toi de n'avoir personne autre à servir que ton Dieu. » Tout cela avait pour effet de rendre sans cesse plus vite au cœur de François la pensée de se retirer entièrement du monde. Souvent, il délibérait là-dessus avec les frères de son ordre, pesant longuement le pour et le contre. Il n'y avait en vérité qu'une chose qui toujours l'empêcha d'adopter la vie hérémétique, c'était l'exemple du Seigneur. Jésus aurait pu choisir de rester à la droite de son Père, dans sa magnificence, mais il avait préféré descendre sur la terre, se soumettre aux dures conditions de la vie humaine et subir une mort à la fois pleine de souffrance et de honte. Et c'est précisément cette mort sur la croix qui avait été dès le début pour saint François le modèle parfait, le grand exemple à méditer et à suivre. Enfin, dans l'amertume croissante de ce doute, François résolut de provoquer un jugement de Dieu et d'obéir aveuglément à la sentence, quelle qu'elle dût être. Dans d'autres occasions, en pareil cas, il prenait un évangile, l'ouvrait au hasard et considérait comme une réponse à son adresse le passage sur lequel était tombé son doigt. Mais cette fois, il décida de s'en remettre à ce que lui commanderaient 2 âmes particulièrement saintes. Il envoya donc le frère Masséo, d'abord vers Sainte-Claire, puis vers le frère Sylvestre, qui poursuivait sa vie de solitaire dans une des grottes du mont Subasio, à l'endroit où s'élève aujourd'hui ce couvent de Carceri, dans les jardins duquel on peut voir encore les premières cellules franciscaines. C'était d'après le jugement de Sylvestre et de Claire que François s'était promis d'agir, désormais libre de scrupules et avec la certitude de se conformer à la volonté divine. Et voici ce que nous racontent les Actus Beati Francisci. Or, le frère Sylvestre se mit aussitôt à prier, et dans sa prière, il reçut aussitôt une réponse de Dieu. Après quoi, il revint vers le frère Masséo et lui dit « Voici ce que le Seigneur dit, que tu dois annoncer au frère François. C'est que Dieu ne l'a pas appelé seulement pour son propre salut, mais afin qu'il sauvât encore beaucoup d'autres âmes. » Puis le père Masséo s'en vint vers Sainte-Claire. Mais elle lui répondit qu'elle-même et une autre de ses sœurs avaient reçu de Dieu tout à fait la même réponse que le frère Sylvestre. Le frère Masséo revint alors vers saint François, et celui-ci l'accueillit tendrement et lui prépara un repas. Et quand le frère Masséo eut fini de manger, le saint l'entraîna avec lui dans la forêt. Là, il découvrit sa tête, croisa ses bras sur sa poitrine, s'agenouilla et demanda « Eh bien, qu'est-ce que Monseigneur Jésus-Christ ordonne que je fasse ?» À quoi le frère Masséo répondit qu'aussi bien Sylvestre que la sœur Claire et une autre sœur encore, avaient reçu la même réponse de Jésus-Christ le Très-Loué. « Notre Seigneur veut que tu continues de prêcher, car Dieu ne t'a pas appelé seulement pour ton propre salut, mais aussi pour le salut des autres. Et voici que la main du Seigneur se posa sur saint François, et qu'il se trouva élevé dans la flamme du Saint-Esprit, et que, ayant fait effort pour en redescendre, il dit au frère Masséo, « Eh bien, mettons-nous en route. » Et il prit avec lui le frère Masséo et le frère Ange, et tous deux étaient de saints hommes. Ils arrivèrent ainsi dans un endroit qui se trouvait entre Canara et Bévania. Or, en cet endroit, saint François vit quelques arbres se dresser au bord de la route, et dans ces arbres se trouvait une foule de toute espèce d'oiseaux que personne n'avait encore jamais vu dans ces régions. Et une grande foule d'oiseaux se trouvait aussi sur le champ, au-dessous des arbres. Et dès que saint François eut vu cette masse, l'Esprit de Dieu vint sur lui et il dit à ses 2 disciples « Attendez-moi un moment, je vais aller prêcher un peu à nos frères les oiseaux. » Et il entra dans le champ, se dirigeant vers les oiseaux qui étaient assis sur le sol. Et aussitôt qu'il eut commencé de prêcher, voici que les oiseaux qui perchaient sur les arbres descendirent vers lui. Et puis aucun d'eux ne bougea, encore qu'il l'entourasse de si près que les plis de son habit en touchaient plusieurs. Et saint François dit à ses oiseaux, « Mes bien chers frères les oiseaux, vous devez beaucoup à Dieu, et il faut que toujours et partout vous le louiez et le célébriez, car il vous a permis de voler librement où il vous plaît. Il vous a donné votre double et triple vêtement et tout votre ornement délicat et multicolore. Et il faut aussi que vous sachiez gré au Créateur de cette nourriture qu'il vous accorde sans que vous ayez à travailler pour elle. Et puis aussi de cette belle voix qu'il vous a donnée pour chanter. Vous ne semez ni ne moissonnez, mes petits frères, mais c'est Dieu qui vous nourrit et qui vous donne aussi des ruisseaux et des sources pour vous y désaltérer, et des montagnes et des collines, des rochers et des forêts pour vous abriter, et de hauts arbres pour y bâtir vos nids. Et bien que vous ne soyez en état ni de filer ni de tisser, il vous donne les vêtements nécessaires, ainsi qu'à vos enfants. C'est que le Créateur vous aime beaucoup, ainsi qu'il vous le prouve par toutes ces grandes faveurs dont il vous a comblé. Mais vous, mes frères les oiseaux, il faut que vous vous gardiez bien d'être ingrats envers lui et que toujours vous vous occupiez activement à le louer. Alors voici qu'après ces paroles de notre Saint-Père, tous ces petits oiseaux commencèrent à ouvrir leur bec, à battre leurs ailes, à étendre le col et à pencher respectueusement vers la terre leur petite tête, et à montrer par leurs chants et leurs mouvements qu'ils se réjouissaient fort des mots que saint François leur avait dit. Et le saint, de son côté, fut tout joyeux en esprit à cette vue, et s'émerveilla de cette grande quantité d'oiseaux et de leur variété et diversité, comme aussi de les voir tellement apprivoisés. Et il en loua le Créateur, et doucement et fraternellement, il les engagea à le louer avec lui. Et lorsque saint François eut achevé sa prédication et son exhortation à louer Dieu, il fit le signe de la croix sur tous ses oiseaux. Et tous s'envolèrent à la fois, en chantant avec une force et une beauté merveilleuses, et bientôt ils se séparèrent et disparurent de divers côtés. Chapitre 2. Les missions d'Italie. Les missions d'Italie. François, cependant, n'entendait pas borner ses nouvelles missions à l'Italie. Cette fois, c'est avec de plus vastes projets qu'il partit d'Assise. Et sans doute son âme, à l'âge de 30 ans où il était arrivé, se trouva ressaisie des beaux rêves guerriers de sa jeunesse. Aussi bien traversait-on alors une nouvelle période de croisade. Quelques années plus tard, Jean de Brienne, frère de ce Gautier qui avait été le héros favori du jeune François, allait se diriger vers Damiette, à la tête d'une nombreuse armée chrétienne. Et François lui-même voulait organiser une croisade, mais maintenant sans autres armes que le seul évangile, car son ambition secrète était de prêcher aux Sarrasins le christianisme et la conversion. Mais d'abord, il voulait obtenir l'autorisation du pape pour sa nouvelle entreprise. On a dit de saint Dominique que sans cesse on le trouve sur le chemin de Rome, occupé à aller recevoir des instructions. On pourrait dire exactement la même chose de saint François. 2 ans après qu'Innocent III lui a accordé la confirmation orale des règles de son ordre, de nouveau, nous le rencontrons à Rome, où il vient rappeler au pape la promesse donnée par celui-ci en 1210. Car il est dès maintenant en état de pouvoir affirmer à Innocent que Dieu a multiplié le nombre de ses frères. Et c'est là-dessus qu'il se fonde pour demander, suivant les paroles du pape, qu'une tâche plus grande lui soit confiée. Malheureusement, nous ne savons que peu de choses de ce troisième voyage à Rome de saint François. En chemin, il a visité Alviano, bourgade voisine de Todi, où pendant qu'il prêchait sur la place du marché, ses biographes nous rapportent qu'il a imposé silence à une foule d'hirondelles qui l'importunaient de leur bavardage. Peut-être aura-t-il passé aussi par Narni et par Toscanella. À Rome, selon son habitude, il a prêché dans les rues et les carrefours, et l'on nous dit que c'est à ses prédications qu'il doit de s'être acquis deux nouveaux frères, Zacharie, qui deviendra plus tard missionnaire en Espagne, et Guillaume, le premier Anglais qui soit entré dans l'ordre. Mais un événement beaucoup plus important pour toute la destinée future de l'ordre a été l'amitié contractée par François durant ce séjour à Rome avec une femme qu'il allait ensuite par plaisanterie et à cause du caractère tout viril de son âme appeler son frère Jacqueline. Dame Giacoma ou Jacopa de Settesoli, femme du noble romain Gratien Frangipani, âgé alors d'environ 25 ans. La famille des Frangipani est l'une des plus anciennes de Rome. On veut même qu'elle descende de cette gens Anicia qui, au cours des siècles, a compté parmi ses membres un Benoît de Nurcie, un Paulin de Nole et un Saint Grégoire. C'est en l'an 717 que le chef de la famille, à cette date Flavius Anicius, s'est mérité le beau surnom de Frangipani, le rompeur de pain, pour l'abondante distribution de pain qu'il a faite à Rome pendant une famine. Au début du IIIe siècle, les Frangipani possédaient à Rome de vastes territoires, notamment dans le Transtévère et sur l'Esquilin, où, entre autres choses, leur appartenaient les restes imposants du célèbre Septisonion de Septime Sévère, nom qui survit aujourd'hui encore sous une forme altérée dans l'appellation de la vieille rue romaine Via del Cetesal, et d'où la femme de Gratien Frangipani tirait son surnom de Settesoli. Quant à Jacqueline elle-même, on affirme qu'elle provenait d'une famille normande de la Sicile. Elle a dû naître vraisemblablement vers 1190, car dès 1210, nous la trouvons mariée et mère d'un fils nommé Jean. Plus tard, en 1217, quelques semaines après la mort de son mari, elle met au monde un autre fils, Gratien. Et c'est dès l'année 1212 qu'elle fait la connaissance de François d'Assise, connaissance que les visites ultérieures de l'apôtre ombrien dans la ville éternelle vont développer en une très pieuse et fidèle amitié. François, sans doute, n'eut pas de peine à obtenir d'Innocent III la bénédiction de son entreprise. Peu de temps après, il s'embarqua pour son voyage sans que nous sachions dans quel port. Mais des tempêtes chassèrent le navire du cours qu'il voulait suivre et le jetèrent sur la côte de l'Esclavonie. De là, François n'avait aucune occasion de faire voile vers l'Orient. Sans compter que l'année était avancée et que la saison était devenue défavorable pour une aussi longue traversée. Aussi le saint essaya-t-il de s'embarquer sur un vaisseau qui partait pour Ancône. Mais le vaisseau était déjà si chargé que les matelots se refusaient à le prendre à leur bord, ainsi que son compagnon. Alors les deux frères imaginèrent de se cacher dans la cale du navire sans que pas un des hommes de l'équipage en fût instruit. Et ce n'est qu'en pleine mer qu'ils sortirent de leur cachette. On peut deviner le mauvais accueil qu'ils reçurent. Mais comme ensuite le temps exécrable prolongeait de beaucoup la durée de la traversée et que tous les vivres du navire se trouvaient épuisés, les deux intrigues réussirent à se faire pardonner leur stratagème en partageant avec l'équipage les provisions dont ils s'étaient pourvus pour leur croisade manquée. Cependant, François, aussitôt qu'il eut remis le pied sur le sol italien, recommença, selon sa coutume, à aller prêchant de ville en ville. À Ascoli, ses discours eurent un succès si énorme que plus de 30 hommes, clercs ou laïcs, demandèrent à être reçus dans la confrérie. De nouveau, François se vit entouré partout d'une foule de peuple, s'empressant joyeusement à l'acclamer. Tout le monde voulait au moins être admis à toucher le rebord de sa robe. Seuls les cathares, assez répandus dans la marche d'Ancône, se tenaient à l'égard de lui, car le fond de sa prédication, comme de toute sa vie religieuse, était la soumission absolue et sans réserve à l'Église romaine, la nécessité de fermer les yeux à des fautes qui ne tenaient qu'aux individus et n'atteignaient point l'essence des institutions, et puis, conséquence immédiate de cette soumission, un profond respect pour les prêtres de ladite Église, respect s'adressant à la fonction sacrée en dehors du caractère personnel des particuliers. C'est évidemment en se rappelant cette mission et d'autres semblables que François, dans son testament, a écrit les mots déjà cités ailleurs sur ces pauvres petits prêtres dans leur presbytère, qu'il était résolu toujours et malgré tout à craindre, aimer et honorer, sans vouloir rien voir du péché qui pouvait être en nous. Or, ce dernier point était précisément celui sur lequel insistaient le plus volontiers les cathares. Il déclamait tout au long sur les péchés des prêtres et par là enlevait bien des fidèles à l'Église que représentaient ces prêtres pécheurs. Mais François, lui, appartenait à la petite élite des esprits qui sont capables vraiment de distinguer les choses des personnes. Il s'entendait à animer ses frères du même sentiment. « Est-ce qu'un prêtre pourrait mentir ?» demandait ingénument le frère Égide, bien résolu d'avance à ne pas admettre une idée aussi insensée. C'est pendant son séjour dans la marche d'Ancône que François eut le bonheur de convertir l'un des hommes les plus fameux du temps, le troubadour Guillaume Divini, couronné de lauriers au Capitole de Rome et proclamé par le peuple le roi des Verts. Divini se trouvait en visite dans la petite ville de San Severino de la marche d'Ancône, où l'une de ses parentes était religieuse. Et ce fut là qu'il entendit François, qui était venu prêcher dans le couvent où demeurait sa parente. Tous les témoins s'accordent à nous dire qu'il y avait dans la manière de parler de saint François quelque chose de particulièrement pénétrant qui forçait la conviction. Thomas de Spalato affirme que les discours du saint étaient beaucoup moins des prédications que des conciones, des allocutions ou conférences ne traitant que des sujets tout pratiques et surtout de la réforme des mœurs. En effet, François était un moraliste inexorable. Jamais il ne taisait rien de ce qui lui paraissait mauvais, mais toujours l'attaquait en l'appelant de son vrai nom. Et ainsi s'explique que malgré son peu de mine, il inspira autour de lui non seulement l'admiration, mais aussi la crainte. Il y avait en soi un peu de l'âme terrible d'un Jean-Baptiste. Ses écrits même abondent en déplorations sur les pécheurs, voués au feu éternel. Ce n'est point lui qui aurait redouté de menacer ses auditeurs de l'implacable sentence de Dieu. Très justement, on a comparé son discours à un glaive qui transperçait les cœurs. Donc Guillaume Divini entendit le célèbre prédicateur de pénitence dans le couvent de San Severino. Le poète était venu là par curiosité, en compagnie de quelques-uns des membres de la jeunesse joyeuse de la ville. Et sans doute d'abord François ne leur en aura guère imposé. Mais bientôt le roi des Verts commença à écouter plus attentivement. Il lui parut que le pauvre d'Assise ne s'adressait qu'à lui seul, que chacun des mots qu'il entendait tombait tout droit sur lui, et que ces mots, l'un après l'autre, comme des flèches lancées sur une main habile, enfonçaient leurs pointes dans son cœur. De quoi donc parlait François ? De son sujet habituel, de la nécessité de mépriser le monde et de se convertir, enfin de détourner de soi la colère prochaine. Et voici que lorsqu'il eut fini de parler, se produisit une chose très simple et très grande. Voici que Guillaume Divini se leva, vint se jeter aux pieds de François et lui cria « Frère, emmène-moi loin des hommes et donne-moi à Dieu. » Le lendemain, François le revêtit de sa robe grise des frères, lui saignit les reins d'une corde et lui assigna le nom de Pacifique, parce qu'il avait été enlevé du tumulte du monde pour être admis à la paix de Dieu. De la même façon, 100 ans après, un autre poète bien supérieur à Divini devait venir chercher la paix parmi les enfants de saint François d'Assise. Un soir, Dante, déjà grisonnant et voûté, se présenta à la porte d'un couvent solitaire des Apennins et frappa. Et comme le frère portier lui demandait ce qu'il désirait, le grand Florentin ne lui répondit qu'une seule parole, mais immense et suffisant à embrasser tout un monde. Pace, la paix. Bien que François accueillit aussitôt tout homme qui venait à lui avec un cœur pénitent et le revêtit sans autre épreuve de l'habit de son ordre, car ce n'est qu'en 1220 que fut décrétée l'obligation d'une année d'essai ou de noviciat, il savait parfaitement distinguer et choisir entre les nombreux néophytes qui d'année en année demandaient à être reçus parmi ses frères. Peu de temps après la conversion du frère pacifique, un jeune noble de Luc vint trouver le saint, se prosterna devant lui avec des larmes et sollicita la faveur de devenir l'un de ses fils. Mais François lui parla avec une dureté inaccoutumée. « Tes larmes mentent, lui déclara-t-il, et ton cœur n'appartient pas à Dieu. Pourquoi veux-tu tromper le Saint-Esprit et moi, son pauvre serviteur ?» Et en effet, il apparut bientôt que le désir du cloître n'avait été chez ce jeune homme qu'un caprice passager, issu peut-être d'un mécontentement accidentel des conditions de sa vie domestique. Car lorsque ses parents vinrent le prier de retourner chez eux, il y consentit sans difficulté. C'était surtout en présence des hommes instruits, des viri literati, que François se tenait soigneusement sur ses gardes. Quand l'un de ces hommes savants vient à moi, avait-il coutume de dire, je reconnais tout de suite si ses sentiments sont sérieux. Dans ce cas, la première demande qu'il me fait est toujours celle-ci. Vois-tu, mon frère, j'ai longtemps vécu dans le monde et je n'ai pas bien connu mon Dieu. Mais toi, je t'en prie, indique-moi un lieu éloigné des rumeurs du monde où je puisse réfléchir dans l'amertume de mon cœur sur les années que j'ai perdues et m'exercer à vivre désormais une vie meilleure. Au contraire, en présence des déshérités de ce monde, des pauvres et des opprimés, des humiliés et des offensés, en présence du lépreux et du voleur et du brigand, le cœur de saint François s'ouvrait tout au large sans aucune réserve. Il est vrai que la règle bénédictine disait déjà que tous les autres devaient être accueillis comme s'ils étaient le Christ. Mais François lui-même, dans sa jeunesse, avait pu constater par expérience que cette règle n'était pas toujours suivie, ou plutôt qu'elle l'était toujours à l'égard d'autres pouvant compter sur une réception polie et courtoise, mais qu'un accueil tout autre était fait souvent à ceux qui avaient le plus besoin d'être logés et nourris, aux vagabonds et aux mendiants sans asile. Et sans doute François avait-il à l'esprit le souvenir de son aventure de jeunesse à Sainte-Marie-de-la-Roche, lorsque tout au début de sa règle, il écrivait ces belles paroles. Et tout homme qui vient vers les frères, ami ou ennemi, voleur ou brigand, aura à être reçu avec bonté. Cependant, il n'y a pas, jusqu'aux disciples les plus immédiats du saint, qui parfois ne trouvassent difficile de suivre leur maître sur ce point. Le Speculum Perfectionis nous rapporte à ce sujet un récit bien caractéristique datant des premiers temps de l'ordre. Dans un ermitage franciscain, au-dessus de Borgo San Sepolcro, il s'agit du couvent du mont Casal, il arriva que des brigands qui avaient coutume de demeurer dans les bois et d'attaquer les voyageurs vinrent demander du pain. Mais quelques-uns des frères dirent qu'il n'était pas juste de leur donner des aumônes. Là-dessus, saint François arriva dans ce couvent, et les frères lui demandèrent s'il était bon de faire l'aumône aux brigands. Et le saint leur répondit ainsi, « Mes enfants, si vous voulez faire comme je vais vous dire, j'ai l'espérance devant Dieu que vous gagnerez le salut de vos âmes. Allez donc, et procurez-vous du bon pain et du bon vin, et portez cela à ces pauvres gens dans le bois où ils se tiennent, et appelez-les et criez-leur, « Frère Brigand, venez sans crainte par ici, nous sommes les petits frères et nous vous apportons du bon pain et du bon vin. » Alors ils viendront tout de suite et vous, vous étendrez une nappe sur le sol et vous leur mettrez le couvert et vous les servirez humblement et gaiement pendant qu'ils mangeront. Puis, quand ils auront fini de manger, vous leur direz la parole de Dieu et enfin, vous leur demanderez de vous accorder à leur tour une faveur, à savoir qu'ils vous promettent de ne jamais tuer personne, de ne jamais infliger à personne aucun mal corporel. Car si vous leur demandiez tout d'une seule fois, sûrement ils diraient non, tandis que de cette manière, ils consentiront à vous promettre cela en récompense de votre humilité et de votre bonté. Puis le lendemain, pour les remercier de leur bonne promesse, vous irez leur porter avec du pain et du vin, encore de bons œufs et du bon fromage, et de nouveau vous les servirez pendant qu'ils mangeront. Et quand ils auront mangé, vous leur direz, « Nos frères, pourquoi restez-vous ici toute la journée à souffrir de la faim et à supporter maintes misères, et puis aussi à compromettre le salut de vos âmes? Vous feriez bien mieux de servir le Seigneur, car il ne manquerait point de vous accorder ce dont vous avez besoin ici-bas sur la terre, et en même temps, il sauverait vos âmes. Et alors, mes enfants, le Seigneur fera en sorte que ces pauvres gens se convertissent en récompense de votre humilité et de votre patience. » Or, les frères firent tout ainsi que saint François le leur avait dit. Et les brigands, à la fois par reconnaissance et par un effet de la compassion divine, exécutèrent point pour point tout ce que les frères leur avaient demandé. Et même, pour remercier les frères de leur humilité et de leur confiance, ils se mirent à les aider et leur apportèrent du bois dans leur ermitage. Et enfin, quelques-uns d'entre eux entrèrent dans l'ordre. Et tous les autres se repentirent de leurs péchés et firent pénitence de leurs fautes, et promirent solennellement aux frères que désormais, ils vivraient du travail de leurs mains et jamais plus ne se reprendraient à leur ancien métier. Ce récit, tel que nous le trouvons déjà dans les traditions les plus anciennes, nous donne une très haute idée à la fois de l'admirable pénétration de saint François, qui sait bien qu'il est inutile de prêcher un homme affamé, et qui sait aussi que Rome ne s'est point bâtie en un jour, et de sa charité et de son amour des hommes les plus dépouillés de l'esprit pharisien qu'il y ait eu jamais. Nous assistons là vraiment à un instant de l'histoire de la chrétienté où les paroles de l'Évangile se sont trouvées comprises exactement telles qu'elles ont été dites. Si vous n'aimez que vos frères, que faites-vous là de bien méritoire? Et les publicains ne font-ils point de même? Et vous, faites le bien, sans en attendre aucun profit. C'est alors que votre récompense sera grande et que vous deviendrez les enfants du Très-Haut, car celui-ci est bon à l'égard des ingrats et des méchants. Mais si François se montrait ainsi extrêmement indulgent pour les grands pécheurs, il imposait aux braves gens de très dures épreuves. De ceux à qui beaucoup était donné, il exigeait beaucoup. Les Fioretti nous ont conservé maints récits qui illustrent ce trait de son caractère, nous racontant par exemple sa conduite à l'égard de Ruffin, qui provenait de l'une des meilleures familles d'Assise et à qui François ordonna de s'en aller tout nu de la Portioncule jusqu'à la ville et de prêcher tout nu dans la cathédrale. Un ordre tout pareil fut donné par lui dans le voisinage de Borgo San Sepolcro au frère Ange qui était de cette ville et qui, comme Ruffin, provenait d'une bonne famille. Lui aussi eut à se rendre tout nu dans la ville pour annoncer que François arriverait le lendemain et avait l'intention de prêcher. Mais le frère Ange, lui, fut rappelé par son maître avant d'être parvenu jusqu'à la porte de la ville. Et François lui promit le paradis en récompense de la promptitude avec laquelle il avait consenti à cette humiliation. On ne sait, au reste, que fort peu de choses certaines sur l'occupation de François d'Assise durant les 2 ou 3 années suivantes. Avec une pénétration merveilleuse, Wadine s'est efforcé de rassembler en une mosaïque artificielle Tous les petits fragments qui constituent les seuls matériaux biographiques se rapportant à cette période. Mais tout son rôle et toute son adresse ne l'ont pas empêché d'échouer dans son entreprise. Et lorsque, par exemple, il nous représente François malade à Assise dans l'hiver de 1212-1213, édictant de son lit de souffrance sa lettre à tous les chrétiens, il fait là manifestement une confusion avec des circonstances d'une date bien postérieure. En tout cas, nous pouvons supposer sans crainte d'erreur que François a poursuivi la série de ses missions à travers l'Italie. C'est ainsi qu'au printemps 1213, nous le rencontrons occupé d'une mission nouvelle dans la province des Romagnes. Dans cette région, non loin de la petite république de Saint-Marin, se dressait jadis une forteresse seigneuriale nommée Montefeltre, aujourd'hui Sasso Feltrio, dans le voisinage de la ville de Saint-Léo. Un beau jour de mai, François et son compagnon, probablement le frère Léon, arrivèrent aux portes de ce château fort où des bannières flottant du haut de la tour et de fières sonneries de trompettes annonçaient la célébration d'une grande fête. Des pages et des valets en habits bariolés couraient tout affairés sur les ponts-levis. Des chevaliers descendaient de leurs montures splendidement caparaçonnés devant la porte du château, et des chars suspendus amenaient dames et demoiselles coiffées de hauts fichus de soie sur le chemin abrupt qui montait de la plaine. Tout concourait pour faire reconnaître qu'un tournoi solennel allait avoir lieu à Montefeltre en présence de toute la noblesse des environs. Mais le frère François ne songea point à s'offenser de tout le luxe qu'il voyait déployé sous ses yeux. Les personnes pieuses sont malheureusement trop portées à se scandaliser de tels spectacles, et précisément François avait l'habitude de mettre ses disciples en garde contre ce penchant, les exhortant à ne point condamner ni mépriser ceux qui vivaient délicatement et s'habillaient avec un éclat superflu. Il disait que ceux-là aussi ont Dieu pour maître, et que Dieu peut, quand il lui plaît, les appeler comme les autres et les rendre justes et saints. N'était-ce point d'ailleurs ce qui lui était arrivé à lui-même ? Parvenu devant le château, il s'arrêta un moment et considéra la bannière qui pendait au-dessus de la porte, ornée des armes du baron de Montefeltre. Puis, avec un sourire, il se tourna vers son compagnon. « Eh bien, mon frère, lui dit-il, qu'en penses-tu ? Ne convient-il pas que nous allions nous aussi assister à la fête ? Qui sait si nous n'aurons point la chance d'y gagner un bon chevalier pour la cause de Dieu ?» Aussitôt dit, aussitôt fait. La fête était célébrée à l'occasion de la majorité d'un jeune page qui allait être sacré chevalier. Tous les invités assistèrent d'abord à une messe où le jeune homme prononça ses vœux de chevalerie. Et voici que cette cérémonie terminée, François monte sur une marche d'escalier dans la cour du château et se met à prêcher. Il avait choisi pour texte de son discours un dicton populaire ayant la forme d'un distique rimé. Tanto è il bene, quo aspetto, quo ni pena me diletto. Et sans doute François, nourri comme il l'était des romans du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, aura développé ce texte à peu près ainsi. Le chevalier qui veut se gagner l'amour d'une belle dame, aura-t-il dit d'abord, doit traverser de nombreuses et pénibles épreuves. Peut-être la dame exigera-t-elle de lui qu'il entreprenne une croisade contre le sultan, peut-être qu'il lui rapporte une corne de la licorne ou un œuf de l'oiseau roc, ou peut-être encore qu'il délivre une jeune fille captive, ou que, pesamment armé et monté sur cheval de guerre, il s'élance par-dessus un pont si étroit qu'à peine l'on peut y passer à pied et sous lequel mugit un torrent furieux. Et tous ces dangers et toutes ces souffrances, le noble et fidèle chevalier les accepte avec joie, simplement parce que sa dame le veut ainsi. Et dans toutes ses épreuves, il ne pense à rien d'autre qu'à la petite main blanche où il pourra déposer ses lèvres lorsqu'il reviendra après avoir accompli son exploit. Et il lui suffit de cette pensée pour anéantir en lui toute hésitation et tout découragement. Or, il y a une chevalerie différente de celle du monde, et bien plus noble encore, à laquelle sont appelés tous les hommes, et non pas seulement ceux qui sont nés de race seigneuriale. Il y a un autre combat, dont l'objet n'est point de plaire à une beauté terrestre, mais de remplir le commandement de l'éternelle et suprême beauté qui est Dieu. Car vraiment, est-ce que Dieu n'est pas beaucoup plus beau encore que les dames les plus belles, qui ne sont toutes que l'œuvre de ses mains et formées par lui du limon de la terre? Est-ce que celui qui crée tant de beauté n'est pas beaucoup plus beau que toutes ses créatures? Oui, certes il l'est, et aussi mérite-t-il que nous tentions pour lui des exploits chevaleresques et que virilement nous combattions en son honneur contre ses ennemis qui sont la chair, le monde, le démon. Et quelle récompense il nous réserve pour le jour où nous aurons fidèlement supporté toutes les épreuves comme un chevalier pour sa dame, sans nous laisser abattre à son service par aucune difficulté ni aucune souffrance. Les faveurs qu'il nous promet sont infiniment plus grandes et précieuses que ce que la dame la plus belle peut avoir à nous accorder, car celle-ci n'a toujours nous offrir rien d'autre qu'elle-même, sa main et son cœur, et sa main est condamnée bientôt à se flétrir, et son cœur va bientôt se rompre et cesser de battre. Mais lorsque Dieu se donne lui-même à nous, comme récompense de la lutte ou comme prix du tournoi, du même coup il nous donne la vie, la lumière, le bonheur, dans une éternité qui jamais ne se flétrira ni ne finira. C'est ainsi sans doute qu'aura parlé le frère François, et sans doute ses paroles auront ému plus d'un jeune et noble cœur. Toujours est-il que l'un des invités de la fête, le jeune comte Roland de Catani, maître du château fort de Cusy, dans le Cassentin, aborda François et lui dit « Mon père, je désirerais pouvoir m'entretenir avec vous du salut de mon âme. » Mais François, qui voulait laisser à l'Esprit de Dieu le temps d'agir profondément sur les âmes, ne montra aucune hâte et répondit au jeune homme « Mon fils, va d'abord prendre ta part du banquet et de la fête où tu es invité en compagnie de tes amis, et ensuite nous causerons tout à notre aise. » Après le tournoi, le jeune comte revint vers François et eut avec lui un long entretien, et avant de prendre congé de lui, il lui dit « Je possède en Toscane une montagne appelée la Verna, une montagne très solitaire et qui convient très bien pour le recueillement. Au cas où vous désireriez vous y installer avec vos frères, je serais heureux de pouvoir vous en faire don pour le salut de mon âme. » Or, saint François, lisons-nous dans les actes du saint, désirait précisément trouver des retraites solitaires où l'on fût à l'aise pour prier. Aussi, tout d'abord, remercia-t-il le Seigneur, qui par l'entremise de ses fidèles ne manque jamais de pourvoir au bien de ses agneaux. Après quoi, il remercia aussi le Seigneur Roland et lui dit « Seigneur comte, lorsque vous rentrerez dans votre château, je vous enverrai deux de mes frères à qui vous pourrez montrer cette montagne dont vous me parlez. Et si vraiment elle leur paraît bien appropriée pour la prière et la contemplation, c'est avec le plus grand bonheur que j'accepterai votre offre généreuse. » On remarquera que François n'est pas allé lui-même examiner le lieu que venait de lui donner le comte Roland. C'est que, à ce moment de sa vie, il entrevoyait à son horizon la couronne du martyr. Il avait échoué jusqu'alors à atteindre la Terre Sainte. Maintenant, l'idée lui était venue d'annoncer l'Évangile aux musulmans dans une autre région des rives lointaines de la mer Méditerranée. Le sultan Mohamed Ben Nasser, le Miramolin, comme l'appelaient les chrétiens, par une déformation du mot arabe Émir el-Munen, le commandeur des croyants, avait été défait par les Espagnols en 1212 près de Tolosa et avait dû se retirer en Afrique. Et c'est là que François, à présent, avait formé le projet d'aller le convertir. Il se met en route vraisemblablement dans l'hiver 1213-1214. Il parvint jusqu'en Espagne, mais il tomba malade avant d'atteindre le but de son voyage et se vit contraint une fois de plus à rentrer en Italie après avoir échoué dans sa tentative. C'est à la date de ce retour à la Portioncule que parmi d'autres nouveaux frères accueillis dans l'ordre, il y admit son futur biographe Thomas de Celano. Durant l'année qui a suivi cette malheureuse mission avortée pour la conversion des païens, François, très vraisemblablement, doit avoir assisté au 4e concile du Latran. Et c'est sans doute à cette occasion qu'il a obtenu d'Innocent le privilège de la pauvreté pour Sainte-Claire et ses sœurs. Vers le même temps, le prélat français Jacques de Vitry, revenant de Terre Sainte, traversa l'Italie et y fit connaissance avec les premiers frères mineurs. Dans une lettre écrite à ses amis français de Gênes en octobre 1216, ce savant chanoine disait notamment « Pendant mon séjour à la cour pontificale, qui se tenait alors à Pérouse, j'ai vu bien des choses qui m'ont profondément attristé. Tout le monde y était si occupé de questions temporelles et mondaines, de politique et de droit, que c'est à peine s'il m'a été possible de dire ou d'entendre un seul mot sur les sujets spirituels. Cependant, une chose m'a consolé dans ces régions. Un grand nombre de personnes des deux sectes, et parmi elles beaucoup de riches et de gens du monde, ont tout abandonné pour l'amour du Christ et ont renoncé au monde. On les appelle maintenant frères mineurs, et je dois dire qu'ils sont tenus en grand honneur par le pape et les cardinaux. Cependant, ils ne s'occupent point des affaires temporelles, mais travaillent incessamment à sauver des âmes de la vanité du monde pour les empêcher de périr. Et déjà la grâce de Dieu leur a permis de faire une riche moisson. Ils vivent d'après le modèle de la communauté chrétienne primitive dont il est écrit « Toute la foule des croyants ne formait qu'un cœur et qu'une âme. Le jour, ils s'occupent à aller dans les villes et villages pour prêcher des âmes. La nuit, ils retournent dans les lieux solitaires où ils s'adonnent à prier. Les femmes vivent ensemble dans divers hospices aux environs des villes. Elles refusent de rien accepter et ne s'entretiennent que du travail de leurs mains. Quant aux hommes de cet ordre nouveau, ils se rassemblent une fois l'an, avec grand succès, dans un endroit donné, pour y manger en commun et pour se réjouir dans le Seigneur. Et là, avec l'assistance de gens de bien, ils discutent et promulguent leurs lois, que le pape ensuite consacre de son approbation. Après quoi, ils se dispersent de nouveau, et demeure toute l'année en Lombardie et en Toscane, dans les Pouilles et en Sicile. Tout récemment encore, un homme saint et craignant Dieu, Nicolas, le confesseur du pape, a abandonné la curie pour se réfugier auprès de ses frères mineurs. Mais il a été bientôt rappelé, car le pape ne pouvait pas se passer de lui. Dans l'été 1216, la cour pontificale s'est transportée à Pérouse. Et les dernières lignes de la description de Jacques de Vitry nous montrent que déjà le mouvement inauguré par François commençait à gagner jusqu'au rang les plus hauts de la hiérarchie ecclésiastique. Le Nicolas dont parle le chanoine François est l'évêque de Tusculum. Ce futur cardinal Nicolas Chiaramonti, dont on sait qu'il s'est toujours montré particulièrement zélé pour les franciscains et que toujours il a tenu à avoir l'un d'eux auprès de lui. Et peut-être est-ce aussi à la même date qu'il convient de placer la première visite faite aux frères mineurs par un autre grand dignitaire de l'Église, le cardinal d'Ostie Ugolin. Le Speculum Perfectionis nous apprend que ce prélat, qui allait devenir bientôt l'infatigable défenseur et protecteur de l'ordre, est venu accompagné d'une suite nombreuse de clercs et de gendarmes à la Portioncule où les frères se trouvaient réunis. Et lorsqu'il vit combien pauvrement ses frères vivaient, et comme ils couchaient sur la paille et mangeaient sur la terre nue, Il en fut si saisi qu'il fondit en larmes et s'écria « Quelle destinée Dieu va-t-il donc nous réserver là-haut, à nous qui passons tous nos jours dans le luxe et le plaisir ?» En tout cas, c'est chose certaine que dès cette période, des relations plus étroites ont commencé à s'établir entre François et la cour pontificale. La distance est petite de la Portioncule à Pérouse, où, comme je l'ai dit, la curie romaine a passé la plus grande partie de l'été de 1216, et les visites de part et d'autre semblent avoir été fréquentes. Et c'est encore durant cet été que, d'après la plupart des biographes, s'est produit l'un des événements les plus discutés de toute la vie de François d'Assise, tout à fait dans les premiers jours du pontificat d'Honorius III, le petit pauvre d'Assise serait venu s'agenouiller devant le vicaire du Christ et aurait sollicité et aurait obtenu de lui la fameuse indulgence de la Portioncule.